L'éditorialiste, c'est comme ça que je...
Celui qui charge de titre toutes les émissions.
Oh, oui, tout à fait, tout à fait. Écoute, écoute. Non, mais c'est bon pour un CV.
Et là là.
Benoît Racette.
Bonjour, Luc.
Tu étais au Salon du livre hier?
Ben oui, comme toute la fin de semaine. C'est la dernière journée aujourd'hui, d'ailleurs.
C'est quoi ton livre? T'as fait quoi, séance de signature?
Non, j'essaie de mettre en valeur des livres audio, mais ouais. C'est une autre question. C'est pas pour ça que vous m'invitez aujourd'hui.
Non, c'est vrai, on veut parler de transport adapté. On veut profiter de la présence de Laurence pour parler de transport adapté, entre autres, avec toi. On va parler de véhicules, d'adaptation, et on reviendra sur le transport avec Serge. M. Poulin, directeur du RUCTA Montréal. Disons, nous, on le sait, évidemment, mais les ceux qui sont peut-être pas handicapés et qui sont pas familiers avec le transport adapté pensent peut-être qu'on est chanceux, que ça coûte cher, et que c'est du porte-à-porte, cette affaire-là. Là, pourquoi veulent-ils tellement des autobus régulières et des alors qu'ils sont gros durs? Pourquoi c'est si important une société avec un TA bien fonctionnel?
Wow, c'est exactement ça la question qu'il faut se poser. Parce que, évidemment, les gens qui sont un peu plus au fait, qui sont peut-être quelque chose comme des alliés ou des gens vivent avec des personnes en situation de handicap, voient bien à Montréal, par exemple, que c'est souvent en retard, c'est difficile. L'hiver, il y a des retards auxquels on s'attend. Et que c'est transporté, que les personnes sont transportées porte à porte. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on perçoit.
Ouais.
Mais évidemment, faut connaître les gens, sinon on voit seulement, on voit pas que les taxis desservent souvent, donnent souvent ce service-là. Donc, on voit le plus souvent des minibus de la STM se déplacer, être encombrant, etc. Mais quand on est un allié, on comprend que c'est indispensable dans la vie des personnes en situation de handicap et c'est que c'est le plus fiable que ça peut être, mais c'est pas complètement fiable.
Ah, oui,
c'est
ça.
Souvent ça qu'on constate. Mais il faut savoir que le transport adapté, d'abord et avant tout, c'était une mesure adaptative, presque d'accommodement. Parce que quand le tandem là, de nos bons maires en 60, du maire Drapeau, ont voulu faire le métro, ils n'ont pas pensé évidemment aux personnes en situation de handicap. Et donc, plus tard, il y a eu une forme d'obligation de la part de la STM, de déployer un service qui viendrait compenser, en fait, le fait que les gens n'aient pas accès à la mobilité.
Bon. D'ailleurs, Forêt, je pense, c'était privé. Hein? Ça se peut-tu? Transport Forêt,
Il y a eu une époque, ouais, effectivement. C'est vrai que Forêt a été un peu un instigateur. Il est toujours dans les parages. Hein? Ils ont toujours...
C'était deux frères. Hein?
C'est ça.
Les deux frères Forêt qui étaient deux... hommes handicapés. Mm-hmm. Puis dans le fond, c'est que lorsque la loi a été adoptée, la SM a été obligée d'offrir le service. Donc eux, dans le fond, sont partis avec...
Les moyens
acheter, du bord. Je ne sais pas comment c'est passé, mais ont pris le relais des frères Forêt.
Oui, c'est ça, exactement. Il y a eu ensuite la continuité avec une autre compagnie. C'est laquelle déjà, là, en continu... Ah, c'est déjà terminé.
Mais
ce que je veux dire,
en
terminant...
Prends une gorgée, là.
Oui, c'est ça.
Et tu termineras l'autre côté avec un 2 minutes et demie.
Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait peut-être regarder ce que le mouvement des personnes en situation de handicap a dit par rapport au transport adapté, parce que c'est de là dont on a entendu parler le plus de ce que c'est, au Québec, à Montréal et ailleurs.
Oui, parce que d'un côté, on veut un transport adapté fort, mais l'idéal serait un transport collectif normalisant et plus de transport adapté, disons, ou presque plus, mais on n'en est pas là. Bon, on s'arrête. 15 secondes, nous dit Jean-Sébastien. Nous, on prend notre petite gorgée. Moi, le Perrier. Laurence, est-ce qu'on t'a offert un café?
On n'a rien à faire.
Seigneur. On va remédier à ça pendant la pause.
Vous écoutez Accès libre.
Avec à la mise en onde Jean-Sébastien La Liberté, à la recherche Catherine Bourderon, mon nom est Luc Fortin, autour de la table Laurence Parent qui est avec moi jusqu'à la fin de l'émission. On parle transport aujourd'hui. Laurence qui est la représentante de la clientèle transport adapté sur le conseil d'administration de la STM et Benoît avec qui on avait commencé à aborder, M. Racette qui aujourd'hui nous aide à comprendre l'importance et surtout la position, la vision du transport adapté par le mouvement des personnes avec une limitation fonctionnelle?
Bien, c'est sûr que c'est une question large, le mouvement. Ouais. Mais ce qu'on peut dire, c'est que bien que Maria Barillé, par exemple, avait été une activiste qui dénonçait clairement l'inaccessibilité du métro il y a de ça 40 ans à peu près, 30 ans plutôt, il reste que dans les 10 dernières années, et Il faut le dire, Laurence Parent en est entre autres responsable. Dans les 5-10 dernières années, c'est devenu un thème important dans le mouvement des personnes en situation de handicap qui avaient tendance à mettre beaucoup d'éclairage sur les questions de santé, par exemple. Et le transport est devenu, aux yeux des activistes, je pense, le thème ou la dimension de la vie des personnes en situation de handicap plus important. Et ça a aidé, hein, parce qu'il y a eu évidemment des mobilisations, il y a eu Transport Mes Adaptés qui a été entre autres créé Laurence Parent. Il y a eu un premier recours d'importance, il y en a eu d'autres, là, mais surtout en santé, je dirais, mais un premier recours d'importance, donc sur le plan juridique. Et même dans la société, les journalistes, le grand public a fini par penser que c'était peut-être important. Est-ce que là, le grand public est prêt à faire tous les investissements, etc., collectivement, que ça prend? Je ne sais pas. Mais il reste que c'est devenu un thème, un objet de militance important.
Mais j'ai très hâte de voir la réaction, justement, du public si jamais le recours collectif intenté par leur applique, disons, porte fruit. Et là, les journalistes vont dire combien ça coûte au trésor public. Et là, j'ai hâte de voir, justement, l'impact et à quel point la personne est pour que tous puissent sortir et jouer une partie importante et intégrale dans la société.
Mais il faut ajouter quand même que ça s'est déjà fait sentir. Là. Puis là, on mélange les choses. Hein. Le transport, c'est aussi lié au transport collectif. C'est l'accessibilité du transport collectif. Le transport adapté se distingue, même si ça fait partie du transport collectif. Puis ce que je veux ajouter, c'est qu'il y a déjà eu des investissements qui sont tombés du fédéral et du provincial. Vous en avez parlé plus tôt. Là. Ouais. Donc, il y a eu une réponse déjà préliminaire, notamment de la STM. Il y a d'autres agences partout au Québec. Il y a des endroits au Québec qui sont très mal desservis en transport collectif, en accessibilité du transport collectif, mais aussi en transport adapté. Ouais. Mais il reste que c'est ça a quand même, je pense que ça a éveillé la sensibilité des gouvernements et les agences se mettent à agir un peu plus là, sur le plan du transport.
Une des difficultés en terminant, peut-être pour le mouvement, c'est qu'on a, comme chaque région ou à peu près a ses paramètres au niveau du transport adapté, c'est difficile pour nous de former un bloc monolithique et dire on veut un transport adapté, disons, qui se tient. On pense à Québec où les gens ont droit à une demi-heure avant de revenir, alors qu'ici à Montréal, on doit attendre une heure. Québec, ils ne sont pas obligés nécessairement de réserver 24 heures d'avance, alors c'est qu'ici, oui. C'est plein de petites réalités qui font que ça devient difficile de s'unir.
Effectivement, mais il y a une raison simple aussi pour ça. C'est que le transport collectif est à la charge des municipalités. Et, des regroupements parfois des municipalités, là, on s'entend. Mais donc, ça veut dire que c'est un poids financier très important pour des municipalités qui n'ont pas toujours toutes les finances pour le faire. Il faudrait, comme ça a commencé un peu, je dirais, avec le financement de l'accessibilité du métro, il faudrait dire non, c'est un enjeu national, c'est un enjeu québécois, par exemple, et dédier de l'argent pour la mise en accessibilité du transport collectif. Pour que, justement, les villes aient les moyens de rendre ça davantage accessible. Mais bon, on dit ça pour l'accessibilité, mais il faut dire ça de manière générale pour le développement du transport collectif aussi. Alors, ça veut dire qu'on n'a pas fait le choix de gouvernement encore. Et boy, est-ce que je suis en train de faire la politique? Le choix de gouvernement encore pour aller vers le transport collectif. Et donc, éventuellement, ça rend plus difficile l'accessibilité simplement du transport collectif parce qu'il y a moins d'argent.
Dans l'obligation de faire du transport adapté ou d'offrir du transport adapté, est-ce qu'il y a des paramètres obligatoires en ce sens? Chaque société doit, investir tant de pourcentage de son budget? Non, hein, on le sait pas? C'est correct si on ne sait pas.
Le ticket, le tarif est réglementé, ça c'est sûr.
Ça va.
Les enveloppes sont... ça dépend. Tu sais, Montréal a une enveloppe STM très importante. L'enveloppe de Montréal, il y a plusieurs partenaires. T'sais, les municipalités, des fois, ça gère autrement. C'est une bonne question. Mais il reste que... Moi, ce que je dis, c'est que peut-être que ça prend une stratégie nationale de la mobilité qui l'intègre clairement à l'accessibilité universelle. Ouais. C'est déjà le cas, mais qui la finance aussi comme du monde.
Il y a la politique de mobilité durable qui a été lancée juste avant l'élection, qui stipule clairement que l'accessibilité transports collectifs doivent devenir accessibles.
Oui.
Tu sais, fait qu'il y a des choses décrites.
Oui, c'est ça.
Mais effectivement, ça varie beaucoup d'une région à l'autre. Puis la demande augmente constamment.
Exactement.
Puis l'apport du financement du MTQ, la proportion a été en diminuant d'année en année. Ouais. C'est la ville et la SEM à Montréal qui ont compensé pour ça. Mais c'est pas toutes les villes là, qui peuvent faire ce choix-là ou qui décident de le faire. Mm-hmm.
Une des régions d'ailleurs au Québec où ça va, où c'est difficile ces temps-ci, c'est en Abitibi-Ouest. Ouais. On va essayer d'y jeter un coup d'œil là, dans les prochaines semaines, de trouver un interlocuteur. Ça paraît pas, disons, c'est pas aussi simple que ça peut paraître. Il y a une ville à qui on impute la responsabilité de tout. Et la ville de Lasard dit nous, on peut pas tout faire. Mais malheureusement, parce qu'ils ne le font pas et d'autres ne prennent pas le relais parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers, ben finalement, il y a des lieux dans cette région du Québec où il n'y a pas de théâtre digne de ce nom. Benoît Racette, merci beaucoup.
Plaisir.
On va sûrement se reparler. Je regarde sur ma feuille la semaine prochaine. Vous êtes là pour nous parler de la loi, du projet de loi cadre fédéral.
Évidemment.
Là, ça ne sera pas un éditorial. Vous allez être quoi, le chroniqueur? Vous allez être fiscaliste? Ça sera
on
quoi le chapeau?
On prendra un peu plus de temps ensemble pour comprendre où nous mène cette loi.
D'accord.